Alors, on va prendre 1 Corinthiens, chapitre 11, et poursuivre l'épître. 1 Corinthiens, chapitre 11, et on va lire les versets, les 16 premiers versets. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Parfois, il y a des passages dans la Bible où quand on est un jeune pasteur, on n'est pas pressé de les prêcher. Et on ne va pas aller directement dans cette épître-là. Hein. Et puis bon, les années faisant, hein, il faut prêcher toute la parole de Dieu. Et je suis quand même content d'arriver à ce chapitre 11, Et de le développer, c'est nécessaire, hein, bien que ça ne m'a pas empêché d'y réfléchir déjà depuis un bon moment. C'est un des passages difficiles des Écritures, hein, et qui invite à la réflexion, qui provoque des débats, des discussions. Parfois, les gens sont en contradiction les uns avec les autres. Mais finalement, donc, l'apôtre Paul est en train de poursuivre son sujet. Il était en train de parler de la liberté chrétienne. Et donc, il est en train de continuer dans ce chapitre. Et il semble que la liberté chrétienne faisait que dans l'église de Corinthe, les femmes, certaines femmes en tout cas, voulaient jouir pleinement de cette liberté chrétienne. Je suis libre. N'est-il pas écrit dans la Bible, il n'y a plus ni homme ni femme, hein? C'est vrai, c'est écrit dans Galates, il n'y a plus ni homme ni femme. Donc, certains voulaient jouir de cette liberté un peu dans cet aspect-là. Et la question, c'est, mais pourquoi les femmes devraient-elles marquer leur différence avec les hommes, hommes ou femmes? Eh bien, il n'y a plus de différence, c'est Paul qui l'a dit en Galates. C'est un petit peu la pensée qu'elles devaient avoir. Et c'est un sujet encore actuel, quand je regarde l'actualité aujourd'hui, hein, je vois, on veut gommer, hein, au maximum, effacer toute distinction et différence entre les hommes et les femmes, voilà. La vérité, c'est qu'il y a des différences quand même. Hein. Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Hein. Et finalement, gommer toutes les différences, hein, ou inverser, échanger les rôles, c'est aller à l'encontre de ce que Dieu a établi à l'origine. Et Paul va répondre à la préoccupation des Corinthiens et Corinthiennes concernant ce sujet, le port du voile. Alors, on va répondre à 3 questions. Première question, pourquoi les femmes devaient-elles porter le voile dans l'assemblée de Corinthe? Deuxième question, est-ce que le passage est réellement une question vestimentaire? Et puis troisième question, est-ce que la femme du 21e siècle, aujourd'hui, devrait encore porter un voile? Alors tout d'abord, pourquoi les femmes devaient-elles porter un voile dans l'assemblée de Corinthe? Alors, il faut se remettre vraiment dans le contexte de l'époque. Et dans la société antique, dans la société grecque, c'est avéré que les jeunes filles chastes et les femmes mariées ou veuves, hein, portaient toutes un voile. Elles avaient un voile sur les cheveux, et elles ne sortaient pas dans la rue en exposant comme ça leur tête, non, elles mettaient un voile, et souvent même, j'ai lu qu'elles s'attachaient les cheveux. Et la femme qui, elle, était dévoilée en public, eh bien, elle était en général une femme esclave ou une dévergondée, une femme de mauvaise vie, une prostituée ou une débauchée. Et c'était courant à Corinthe de voir des prostituées sacrées dans les temples païens. Et celles-ci, eh bien, n'avaient pas de voile ou même se rasaient ou étaient rasées complètement. Sur Corinthe, il y a un philosophe qui s'appelle Strabon, philosophe historien. Il rapporte ceci, il dit « Le temple d'Aphrodite à Corinthe était si riche qu'il possédait à titre de hiérodule ou d'esclave sacré plus de 1000 courtisanes vouées au culte de la déesse par des donateurs de l'un et de l'autre sexe. » Donc, au culte de la divinité Aphrodite, donc c'était pour avoir des relations sexuelles, bien sûr. Ailleurs, j'ai lu que eh bien, les prêtres à Corinthe relâchaient ces jeunes femmes après les avoir rasées. Et puis, eh bien, ils recevaient d'autres jeunes femmes pour eh bien, perpétuer le culte de la déesse. Ainsi, quand une femme n'avait pas de voile, eh bien, automatiquement, ou pire, si elle était rasée, on disait, mais c'est une débauchée, celle-là. Hein, elle vient d'où? Alors, quand vous mettez dans ce contexte, il est bien évident qu'une femme chrétienne, il fallait qu'elle mette un voile. C'était obligatoire. Il fallait qu'elle conserve ce voile. Et dans notre passage, Paul insiste sur le contraste qu'il peut y avoir entre la décence d'une femme voilée et l'indécence d'une femme qui n'aurait pas son voile. Mais son argumentation n'est pas qu'une question de décence, ce qui amène à poser la seconde question, est-ce que le problème de ce passage est réellement une question uniquement vestimentaire? Et la réponse est non. Le cœur du passage n'est pas sur le voile, mais sur l'autorité. Ça, c'est le cœur du passage. Et si Paul aborde la question du voile, c'est parce qu'il soulève cette question de l'autorité dans l'église de Corinthe. Et le voile, finalement, était qu'un signe extérieur d'une vérité qui était plus importante, une vérité intérieure dans le cœur des Corinthiennes. Parce que certaines voulaient effacer, en fait, les distinctions qu'il y avait entre hommes et femmes. Donc, elles se disaient probablement, il n'y a plus ni homme ni femme, donc je peux me libérer du voile, et au même titre que les hommes, eh bien, prier sans voile, ou prophétiser sans voile, sans que rien ne me distingue d'eux. Hein? Après tout, hein? Plus homme ni femme, on est pareil. Mais ce qui pouvait être sembler un petit détail vestimentaire soulevait un vrai problème concernant l'autorité. Finalement, qui a autorité sur qui? Est-ce que, une autre question, est-ce que l'autorité doit être également répartie, partagée entre hommes, femmes? Par exemple, à Corinthe, dans l'Assemblée, c'est un peu, on a l'impression, ce que le gouvernement veut faire hein, avec la parité. On veut, voilà, partager finalement le gouvernement. Et même allons plus loin, y a-t-il vraiment une autorité à définir de l'un sur l'autre? Hein? On gomme tout, il n'y a plus d'autorité. Et on voit que c'est vraiment actuel. Aujourd'hui, les hommes réfléchissent à cela et certaines femmes veulent la position, veulent la place que l'homme peut avoir à droite ou à gauche. Et ce n'est pas une question de capacité. Les capacités, il y a des femmes très capables. Hein. Quand on regarde le gouvernement allemand, hein, il tourne comme une horloge conduite par une femme. Et on est égaux, tous égaux en tant que personne. On a la même valeur spirituellement, intellectuellement. On est égaux. Mais on est différent dans la position que Dieu a assignée à chacun. Et on a des rôles différents, des places différentes dans l'ordre que Dieu a établi. Depuis l'origine, Dieu a choisi de donner l'autorité à l'homme et donc de lui donner la direction devant la femme. Ça, c'est une phrase, elle n'est pas appréciée. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne l'apprécient pas, cette phrase. Je la répète, hein. Dieu a choisi de donner l'autorité à l'homme, donc devant la femme. Et même cette phrase peut représenter un problème dans certaines assemblées chrétiennes. Parce que ça grince, hein, on n'accepte pas ça. Et c'était le cas dans l'église de Corinthe, où Dieu a voulu que chacun n'oublie pas quelle était la position de l'un et de l'autre, de l'un par rapport à l'autre. Et cette position passait particulièrement pour les Corinthiennes par l'acceptation du port du voile, puisque le voile signifiait l'acceptation de l'autorité masculine. Et le fait de se passer, l'affranchissement du voile, eh bien, ça signifiait clairement que eh bien, voilà, je m'émancipe de l'autorité masculine, voilà, comme une femme qui ne veut pas de mari et puis qui fait n'importe quoi, quelque chose comme ça. Et Paul donc va donner une liste d'arguments pour justifier le port du voile, parce que c'est lié particulièrement dans cette église de Corinthe. Donc on va relire ensemble versets 2 et 3. « Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Et là, on voit Paul qui établit l'ordre divin. Dieu n'a pas créé le monde sans qu'il y ait un ordre, sans qu'il y ait des autorités. Il y a même des autorités dans les anges, parmi les anges, des autorités, et donc des liens de subordination des uns par rapport aux autres. Et même, c'est quelque chose qu'on observe dans la divinité. C'est incroyable. Dans la Trinité elle-même, dans voilà, la personne de Dieu, on voit que Dieu est le chef de Christ. Littéralement, Dieu est le Père, il est la képhalée ou céphalée, encéphalogramme, il est la tête. Christ, Dieu est la tête de Christ. Donc le Père est celui qui conduit, celui qui dirige même la création. Et le Fils, quoi qu'il soit lui-même Dieu dans sa personne, il est Dieu. Eh bien, il accepte sa place, il accepte la tête qui est au-dessus de lui et il s'y soumet volontairement. Ensuite, Christ, lui, il est la tête de tout homme, il est dit. Il est donc le chef, il est le conducteur, il est l'autorité de tout homme. Et chaque homme est responsable devant Christ de ses décisions, de ses choix de vie, de sa gestion de ses responsabilités ou sa non-gestion, enfin tout ça, il est responsable devant Jésus-Christ. Et l'homme, ensuite, il est dit, est la tête ou le chef de la femme. Donc, Dieu lui accorde autorité sur la femme, sur son épouse. Et j'aimerais vous lire une citation de Charles Rochedieu, qui est belle. Il dit, « L'homme est le chef et non pas le tyran, le despote sans égard, mais la tête protectrice du corps. » L'homme est le chef et non le tyran, et non le despote sans égard, mais la tête protectrice du corps. Pour rappel, il est dit que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Parce que celui qui aime sa femme, eh bien, il s'aime lui-même. Et c'est vrai que quand on voit notre corps, on se fait un petit bobo, je me suis coupé là avec un cutter, voilà, on en prend soin, son corps. On va le désinfecter, on va veiller à ce que ben, voilà, ça n'empire pas. Quand on a un mal, quelque chose, eh bien, on va chercher à soulager ce mal. On prend soin, la tête prend soin du corps. Et de même, Christ prend soin de son Église. Il veille sur son Église, il prend soin de chacun en tant que tête. Et l'homme doit prendre soin de la femme, de la même manière. L'autorité dont Dieu parle de l'homme sur la femme, c'est donc pas une autorité qui est abusive, qui est dominatrice, qui est excessive, qui est violente, mais c'est plutôt une autorité qui est protectrice, aimante, responsable. Comme Christ le fait vis-à-vis de son Église qu'il aime et dont il prend soin. Mais l'attention et la sollicitude de Christ ne l'empêchent pas d'être directif et de rester la tête, de conduire son Église. Et c'est certainement là l'équilibre du bon chef. Il décide, il fait avancer les choses, il y veille, mais il a aussi de l'attention et de l'intérêt pour chaque membre donc de son corps. Dieu a établi un ordre divin plaçant chacun dans une position d'autorité ou sous une autorité. Et une chose importante à comprendre, c'est que ça ne signifie pas qu'il y a inférieur et supérieur. Souvent, on dit « c'est mon supérieur ». Peut-être que ce n'est pas trop juste, hein? Parce que dans l'idée supérieur-inférieur, eh bien, on a l'impression de diminuer une personne dans ce qu'elle est, dans sa valeur, en elle-même. Et ce n'est pas une question de supériorité, d'infériorité, mais c'est plutôt une question d'accepter une position que Dieu a établie. Jésus-Christ ne se sent pas rabaissé d'être sous l'autorité de son Père. Nullement. Il est volontairement, volontiers, avec joie. Et le Fils n'est pas inférieur au Père. Le Fils et le Père, mais ils ont les mêmes attributs, la même puissance. Ils sont égaux dans leur nature divine. Mais il y a un rôle, chacun dans son rang, à sa place, hein, et chacun l'accepte sans se sentir diminué ou sans dominer. Tout à l'heure, il y avait le verset qui était durant tout le culte. En regardant ce verset, je me disais, tu veux le remettre, Fanette ? Donc c'est Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Et j'ai trouvé ça beau. Parce que la parole de Dieu ne dit pas « Dieu est le chef de Christ ». Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Non, la parole de Dieu vient mettre Dieu tout en bas pour rappeler qu'il est le chef au-dessus de tout, mais tout en bas. Et je trouve ça beau. Parce que rien dans la manière où c'est écrit, eh bien on voit que le chef suprême, il n'est pas celui qui écrase et domine, mais il est celui qui sert et qui se met en dessous. Mais il est le chef, il l'est réellement. Voyez ? Et certainement, dans les relations hommes-femmes, c'est ça. Il y a une acceptation de l'autorité, mais l'autorité n'est pas là pour écraser. Elle est là pour servir aussi, et pour aimer, et prendre soin. Merci, Fanette. Donc, la femme n'est pas inférieure à l'homme. Elle n'a juste pas la même place, pas les mêmes responsabilités. Si Christ l'accepte de son père sans être offusqué, eh bien, une femme devrait l'accepter aussi d'un homme ou de son mari sans être offusqué. Mais de même que l'homme peut abuser de sa position de chef, la femme peut se rebeller contre l'idée d'une subordination. Pour l'un comme pour l'autre, on peut dire que c'est le péché qui vient détruire cette place légitime de chacun. Mais l'ordre établi par Dieu, c'est le premier argument qui nous pousse à accepter notre place. Ensuite, deuxièmement, versets 4 à 7. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Alors, notez ici que cette question du voile pour les femmes ou l'absence du voile pour les hommes est important dans un culte public, puisqu'il est parlé de prier et de prophétiser. Prophétiser, on ne va pas prophétiser tout seul dans sa chambre. Prophétiser, c'est nécessairement pour les autres. Hein. Et donc, ça va de soi qu'ici, il s'agit d'un culte, public. Et c'est là un point important pour comprendre la raison du voile. Et on vient de voir donc que Dieu a établi un ordre. Dieu, Christ, l'homme, la femme. Et cet ordre devait être quelque chose de visible dans le culte. Ça devait se manifester clairement à la vue de tous. Qui est la tête ? Qui est l'autorité ? Qui est le responsable ? Immédiatement, dans une assemblée chrétienne, eh bien, on devait se tourner vers les hommes. Et oui, c'est eux qui sont responsables. Et il y avait une distinction nette qui était faite entre les hommes et les femmes. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme, et l'homme est le responsable dans l'assemblée, chef de Christ, le chef de la femme, pardon. Et le problème à Corinthe, c'était donc que, je l'ai dit, les femmes voulaient s'émanciper, voulaient ôter leur voile, s'affranchir de cela. Mais faire cela, eh bien, c'était se mettre à la même position que les hommes. C'était vouloir, eh bien, finalement, prendre leur place ou se mettre à côté d'eux en tant qu'autorité, en tant que responsable. Et c'était gommer le signe distinctif qui permettait de déterminer, mais là est l'autorité dans l'assemblée. Et on peut dire que l'église de Corinthe, ce n'était pas vraiment une référence en matière d'ordre. C'était le désordre. C'était la cacophonie complète. On faisait n'importe quoi. On priait tous ensemble. On prophétisait tous ensemble. Et puis, les uns étaient voilés. Les unes étaient non voilées. Enfin, c'était le mélange total. Et l'apôtre Paul va remettre de l'ordre dans cette église. Et point par point, il avance progressivement dans son épître. Et dans notre texte, il s'attaque au problème du désordre concernant l'autorité. Plus loin, il va aborder la question de la prise de parole dans l'assemblée. Mais là, il s'attaque au problème de l'autorité. Il le prend à bras-le-corps. Qui est la tête dans l'assemblée? Il répond, c'est l'homme selon l'ordre que Dieu a établi. Puis il dit ensuite, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Et il dit donc, l'homme est la gloire de Dieu, ça signifie que l'homme honore Dieu, il rend gloire, il rend honneur à Dieu. Et on peut se demander, mais comment rend-il honneur à son chef? Il rend honneur à son chef en prenant la position que Dieu lui donne. C'est-à-dire la position de responsable et d'autorité. Là, il rend honneur à son chef, tête découverte. Paul dit bien, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. C'est-à-dire, s'il met un voile et prend une position de subordination par rapport à des femmes qui seraient, elles, dévoilées, il est en train de déshonorer son chef, qui l'a établi autorité dans l'Église. Et on peut dire que c'est refuser l'ordre que Dieu a établi. C'est inverser l'ordre, tout mélanger. Et c'est un vrai problème dans la société actuelle. Certains hommes déshonorent aujourd'hui Dieu parce qu'ils refusent d'être responsables, d'être ceux qui vont conduire, ceux qui vont diriger, qui vont apporter quelque chose. Et c'est parfois aussi le cas dans des assemblées chrétiennes, parce que les hommes sont timorés et n'ont pas envie de s'avancer et puis faire le pas et faire ce qu'ils devraient faire. Ils sont bien en retrait, en fait. Ils sont très bien là. Quel est le résultat? Ben, les femmes s'avancent et elles prennent la place. Mais c'est un vrai problème, puisque on inverse le rôle. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu. C'est un vrai problème. Puis Paul dit, la femme et la gloire de l'homme. Et il y a deux situations. Soit elle est véritablement sa gloire, elle l'honore, soit elle n'est plus sa gloire parce qu'elle le déshonore. Elle lui rend plus honneur. Et ça arrivait à Corinthe quand des femmes se dévoilaient. Donc, elles ôtaient le signe montrant qu'elles acceptaient l'autorité, notamment de leur mari, par exemple. Et une femme sans voile signifiait, voilà, je suis libre, moi je suis affranchi, je fais ce que je veux. Ou bien, j'enlève mon voile, et puis moi, je suis à la même position en tant qu'autorité. Pour un mari, c'était une honte que d'avoir une femme ôtant son voile et manifester publiquement qu'elle n'accepte pas la position de son mari. C'était une honte. Et je vais en faire une application pour nous aujourd'hui en citant un passage de l'apôtre Pierre. Donc Paul dit, la femme est la gloire de l'homme. Et Pierre, dans son épître, parle aux femmes, exhorte les femmes. Et finalement, il dit quoi? Il dit que c'est une gloire pour l'homme que d'avoir une femme avec la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Ça veut dire une femme querelleuse, une femme qui fait des histoires, c'est une honte pour le mari. c'est une honte. Alors que si elle a un esprit doux et paisible, c'est une gloire pour son mari. Il y a plein de versets dans les Proverbes hein, à ce sujet. C'est une gloire pour l'homme, c'est toujours Pierre dans son épître, hein. C'est une gloire pour l'homme que d'avoir une femme soumise, qui n'agit pas sans le consentement de son mari. Pierre dit, « Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. » C'est-à-dire qui restaient sous l'autorité de leur mari. Ça, c'est une gloire pour l'homme. Et Pierre va plus loin, puisqu'il cite l'exemple de Sarah, si vous vous souvenez, hein, et il dit « Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. » Ouh là 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 ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce qu'il ne va pas un peu trop loin, là, Pierre ? Hein ? Est-ce qu'il ne va pas un peu trop loin ? Appeler son mari son Seigneur. Alors, j'attends pas que Kimberly m'appelle Seigneur. Mais tout l'enseignement de la parole se recoupe. Hein ? C'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Et je vous ai parlé de la responsabilité de l'homme, hein, de ce qu'il doit être en tant qu'autorité. Qui est la tête de la femme ? C'est l'homme. Être dans le plan de Dieu pour une femme, c'est donc accepter d'être et de rester sous l'autorité de son mari. Ça, c'est le plan de Dieu, réellement. Et pour Sarah, comment ça se traduisait pour elle ? Elle disait « Seigneur ». Je ne pense pas qu'elle faisait une genouflexion, mais elle appelait « Seigneur ». Voilà. Aux États-Unis, c'est frappant ça, mais c'est, moi je trouve ça, ça m'a un peu choqué au début, puis finalement je me dis, il y a quelque chose de bon quand même là. C'est que les enfants, quand le père dit quelque chose, il attend que les enfants répondent « Yes, sir ». Ça choque. « Oui, monsieur ». Mais il y a dans cette petite phrase, eh bien, il y a une acceptation. « J'accepte. Tu es mon père. Yes, sir. Yes. » Et c'est beau. Et c'est beau. Et pour Sarah, c'est beau. C'est très beau. Aucun homme ne devrait l'exiger de sa femme, hein, mais c'est beau. Et pour les chrétiennes à Corinthe, eh bien, cette acceptation de l'autorité devait se traduire par le voile. C'était « oui, j'accepte ». Oui, et je suis heureuse dans cette position vis-à-vis de mon mari. Et je pose la question, mais comment nous, aujourd'hui, ça devrait se traduire ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui devrait se traduire dans notre vie ? À chacun de répondre pour lui-même. Si nous sommes un homme ce matin, si nous sommes un homme, est-ce que nous honorons Christ en prenant la place qu'il attend de nous ? Et si nous sommes une femme ce matin, est-ce que nous honorons notre tête en prenant la place que nous devons prendre. Troisième argument, troisième chose, versets 8 et 9. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Et il y a deux choses ici. La première chose, c'est l'ordre de la création. Dieu a fait d'abord l'homme, puis, il a tiré la femme de l'homme. Et il y a une relation d'autorité naturelle, si je peux dire. Comme les parents sont de fait l'autorité des enfants qui sont tirés d'eux et qui viennent après eux, ben de la même manière, Paul fait la relation, il dit, mais c'est naturel, l'homme était en premier et donc la femme était en deuxième, elle a été tirée de lui. Et la deuxième chose, c'est le rôle de la femme par rapport à l'homme. La femme a été créée à cause de l'homme. Et la Genèse donne la raison de la création de la femme. Il est écrit, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc Dieu a accordé une aide pour être aux côtés de l'homme. Et comme d'autres l'ont dit avant moi, mais je ne peux pas le dire mieux, Dieu n'a pas pris un os de la tête hein, pour dominer, il n'a pas pris un os du pied pour piétiner, mais il a pris une côte sur le côté pour faire quelqu'un qui est à ses côtés. Et c'est beau, c'est beau. Et j'aimerais vous lire d'autres mots de Charles Rochedieu à ce sujet. Il dit, la femme, donc, créée pour être l'aide de l'homme, tantôt la femme lui est un piège, tantôt lui sert de jouet et d'esclave, tantôt elle fait de lui son esclave. C'est incroyable, hein? Alors qu'elle doit être une aide, c'est une réalité. Tantôt, elle est un piège et elle devient jouer un esclave, ou bien c'est lui qui est dominé par elle. Et Dieu a voulu que la femme soit une aide égale à l'homme, mais demeurant toujours sous son autorité, l'autorité masculine aimante. Mais le péché a tout déformé. Quatrièmement, verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Alors, il y a plusieurs hypothèses sur cette question des anges. Ce qui me paraît le plus évident, c'est que les anges de Dieu sont les spectateurs de ce qui se passe dans l'Église, et particulièrement dans le culte. C'est quelque chose, ça, hein? Les anges observent, regardent les enfants de Dieu adorer Dieu, lui rendre un culte, l'honorer. Ils sont spectateurs, là, avec nous. Et si la chute en Éden a renversé les choses, eh bien, dans l'Église de Jésus-Christ, Dieu souhaite rétablir les choses d'une manière qui soit telle qu'il l'avait prévue à l'origine. Et il faut se souvenir qu'en Éden, la femme s'est approchée de l'arbre et elle a mangé le fruit la première, puis elle en a donné à son mari. Et c'est certain que la désobéissance et la culpabilité, c'était le fait d'aller prendre de ce fruit et de croquer dedans. Et puis après, de le donner à son mari qui en a croqué dedans. Donc ça, c'était le péché qui a conduit à la mort et à la malédiction et à tout ce que l'on sait après cela. Néanmoins, en s'approchant de l'arbre, il y avait déjà un signe qui manque, comment dire, qu'on n'accepte pas l'autorité. Un désir d'indépendance, puisque la femme avait reçu de l'homme, il ne faut pas aller manger cet arbre. Dieu nous l'a dit. Mais quand même, je vais aller m'approcher de l'arbre. Hein? Et déjà, on a les prémices de quelque chose qui n'est pas bon ici. Elle a délaissé la parole de son mari. Elle a voulu être indépendante. Et de l'autre côté, lui, en laissant faire son épouse, ben lui, c'était pareil, hein? Il n'assumait pas sa responsabilité et ça devenait dangereux. Il aurait dû protéger sa femme, mettre de l'ordre par sa parole et dire non, non ma chérie, non, viens avec moi. Et il n'a pas fait, il n'a pas fait. Il a refusé d'être directif finalement. L'une voulait agir seule, faire ce qu'elle voulait. Et l'autre était prêt à se tenir en retrait et à la laisser faire ce qu'elle voulait. C'est ça. Et on a un double problème qui se retrouve dans l'humanité aujourd'hui. C'est toujours là. C'est depuis l'origine. C'est la femme qui retire son voile. Et pas toujours, mais parfois l'homme qui se met un voile. Et on inverse les rôles. Puis toujours dans la Genèse, Dieu s'est adressé à l'homme et à la femme pour leur dire quelles seraient maintenant les conséquences de leur désobéissance, la malédiction. Et la première, donc, c'était la mort que Dieu avait prévue. Mais Dieu dit également à la femme, Genèse 3:16, il dit « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et l'interprétation de cette expression, tes désirs se porteront vers ton mari, c'est pas quelque chose de positif. Parce qu'on pourrait se dire, ah ben, voilà, elle va aimer son mari, elle va être pleine d'affection. Non, on est en train de parler de la malédiction ici. C'est quelque chose qui est une malédiction. Tes désirs se porteront vers ton mari, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire, en fait, tu vas vouloir dominer sur ton mari. Et on le sait pourquoi. Parce que la même expression est réutilisée un tout petit peu plus loin avec Caïn. Vous vous souvenez, Caïn, il n'a pas offert l'offrande qui plaisait à Dieu. Et à ce moment-là, Dieu lui a dit, attention, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Et il dit, mais toi, Caïn, domine sur lui, sur le péché. C'est la même expression. Et là, on voit que c'est quelque chose de négatif. Et donc, c'était négatif aussi pour la malédiction d'Adam et Ève. La malédiction, c'est la femme qui peut avoir tendance à vouloir prendre autorité sur l'homme et décider. Voilà, j'ai décidé. C'est comme ça. C'est une malédiction. C'est un vrai problème. Il y a plus de 10 ans, j'étais dans un petit appartement au Moulin à Vent et il y avait un couple qui habitait au rez-de-chaussée. Moi, j'étais au premier étage. Donc, j'étais aux premières loges pour entendre ce qui se passait, ou voir même. Et il y avait des scènes de ménage terribles. Et je n'avais jamais vu ça. C'était même des drames parce qu'ils se battaient réellement l'un l'autre. Et la femme avait un sacré caractère. Hein. Ouh. Et si la femme avait l'intention de dominer son mari avait l'intention de ne pas se laisser faire. Et le bilan, c'était même sanglant, avec la police et tout. Maintenant, cette femme, elle aurait pu avoir un mari avec un caractère différent. Qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, elle aurait été le chef de son couple. Et son mari n'aurait opposé aucune résistance hein, s'il avait été d'un caractère complètement différent. Puis voilà, porte la culotte, comme on dit, hein, l'expression. Mais vu le caractère du mari, qu'est-ce qui se serait passé si la femme, elle, avait eu un caractère doux? Eh bien, elle aurait été dominée. Il aurait écrasé. Ça, c'est certain. Ou, et là, c'était le cas chez eux, hein, eh bien, la femme voulait prendre les rênes, le mari n'avait pas l'intention de se laisser faire, et c'était le clash. C'était l'implosion hein, dans ce foyer. Et ça, c'est la malédiction du péché. Le plan de Dieu, il est tout autre. Dieu a prévu qu'il y ait un chef, un responsable, aimant, et que l'épouse accepte eh bien cette tête, ce mari, et qu'elle y réponde par la soumission et par le respect. Cet ordre, c'est l'ordre que Dieu a établi, et c'est l'ordre qui est rendu possible par la présence de Jésus-Christ dans notre cœur. Et c'est ça qui est important à comprendre. C'est sûr, quand on regarde le monde, ça ne marche pas, hein, ou c'est rare, ça arrive parfois. Mais souvent, eh bien, voilà, il y a un déséquilibre, et vraiment, ça va de travers. Hein. Mais quand on reçoit le Fils de Dieu dans son cœur, il nous donne la puissance, il nous donne le pouvoir d'accepter notre place et de ne pas en être frustré ou de ne pas en user d'une mauvaise manière. Christ en nous, c'est possible. C'est pourquoi la femme, il dit, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Et les anges regardent l'Église de Dieu, ils se penchent sur les églises locales, sur toute la terre. Et c'est quoi le miracle? Le miracle, c'est de voir des pécheurs qui, à l'extérieur, font n'importe quoi, mais à l'intérieur, font la volonté de Dieu et acceptent le plan de Dieu et sont heureux dans le sillage, dans la voie que Dieu leur a tracée. Ça, c'est un miracle. Ils sont toujours pécheurs, mais par la puissance de Christ, ils le font, ils le vivent. Est-ce que les anges, en se penchant sur l'Église, voient ça? Dans notre Église, est-ce qu'ils le voient? Versets 11 et 12. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Et c'est comme si Paul vient rééquilibrer un petit peu les choses. Bon, il a avancé dans son développement, et là, il rééquilibre. Il a clairement exposé, l'homme, c'est le chef, il en donne des arguments, et il demande à la femme d'accepter cet ordre divin. Mais si l'homme est le premier dans le sens où il est l'autorité, ça ne signifie pas qu'il puisse faire sans la femme. Il a besoin de la femme. Et il y a une interdépendance entre l'homme et la femme. Et je le redis, car ça n'a rien à voir avec l'idée de supériorité et d'infériorité. Je lisais une méditation, c'était un autre sujet, mais c'était intéressant, c'était concernant ce verset. Vous savez quand il dit « Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? La réponse est non. C'est bien sûr que non. Et est-ce que ça signifie que certains sont supérieurs aux autres? Et non. Non. Mais ils ont des responsabilités qui sont différentes, hein, des positions différentes. Hein, et chacun, eh bien, accepte la position de l'autre. Hein. Et Dieu donne des responsabilités et des limites à cette responsabilité. Dieu donne de la valeur à chacun dans l'exercice de ses responsabilités. Quand on les accepte, ça y est, on a de la valeur pour Dieu et pour les autres aussi. Un désir d'assumer sans vouloir prendre la place de l'autre. Il y a vraiment une complémentarité. Et il y a des choses, on ne pourra jamais les changer. Homme, femme, époux, mari, on ne pourra jamais changer ça. Épouse, mari, c'est, voilà, c'est, ça se continue. Ce n'est pas comme enfant, parent. Finalement, après, l'enfant devient lui-même adulte. Et il y a des choses qui changent, hein, même s'il y a toujours le respect, etc. Mais pour épouse et mari, ça ne change pas, ça. Et le bonheur, c'est certainement pas dans l'inversement des rôles, mais c'est dans l'acceptation du plan de Dieu et dans un amour réciproque. Ensuite, versets 13 et 15, on arrive bientôt à la fin. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter? Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Et Paul donne un dernier argument en faveur du voile. En créant la femme gracieuse et plus sensible par rapport à l'homme, Dieu lui a donné une chevelure qui marque une différence, hein, sa féminité. Et ses longs cheveux, on peut dire, la distinguent depuis l'origine avec les hommes. Et je pense que c'est quand même assez récent, hein, même les cheveux courts aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, dans la société, beaucoup de choses ont changé. Mais ça, pendant très longtemps, hein, les cheveux étaient toujours gardés longs. Et donc, il dit finalement, c'est comme un voile qui est naturel, qui a été donné à la femme. Un signe visible qui marque la différence. Parce qu'il y a une différence entre les deux sexes. Et Dieu veut qu'on accepte cette différence. Et ça m'amène à cette dernière question. Est-ce que la femme du 21e siècle devrait toujours porter un voile? Et il y a deux choses qui ressortent du passage. Premièrement, c'est l'aspect culturel qui est certain. Il y a un aspect culturel qui est là. Aujourd'hui, on est dans une autre société. Plusieurs ont des cheveux même plutôt courts. Hein. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et à l'époque, une femme non voilée dans la société, c'était une femme dévergondée. C'était une femme vraiment, une prostituée ou une esclave. Et donc, il fallait que la femme chrétienne, eh bien, montre qu'elle n'était pas comme ça, qu'elle se gardait. Aujourd'hui, dans notre société occidentale, en tout cas ici en France, le voile ne représente plus rien. Une femme se balade sans voile dans la rue, on ne la prend pas pour une prostituée. Hein, ça n'a rien à voir. Donc les choses ont vraiment changé. Et une chrétienne qui serait comme ça, eh bien, sans voile, son témoignage n'est pas entaché par le fait qu'elle n'ait pas un voile. Il n'y a pas de problème. Ainsi, cet aspect culturel est vraiment, à mon avis, représente quelque chose d'important. C'est normal que l'habillement change. Ensuite, il y a l'aspect du signe dans l'assemblée. Donc, que Paul aborde. Et vous le savez, aujourd'hui, certaines assemblées recommandent encore et prêchent que les femmes doivent porter un voile aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je pense? Je pense que c'est quand même une opinion respectable au vu des arguments que Paul développe. Je ne dénigre pas du tout cette opinion et je pense que c'est respectable. Et ça veut dire que si une femme voulait porter le voile dans l'assemblée, je l'ai toujours pensé, et je continue à le penser, je ne lui dirai rien. C'est son droit, elle le peut. Si dans sa conscience, elle le préfère, il n'y a aucun problème. Et je pense qu'il faut respecter. Néanmoins, j'aimerais encore relever le dernier argument de l'apôtre Paul sur la chevelure. La chevelure, il dit, lui a été donnée comme un voile. Et donc, il semble que si Paul dit de mettre un second voile au-dessus du voile naturel, c'est vraiment à cause de la culture de l'époque. Pourquoi mettre deux voiles, puisqu'elle a déjà un voile qui est naturel? Et par le voile naturel, on voit déjà la différence. Et je pense que la différence visible, c'était quelque chose d'important. Et pour la société de l'époque, ben, c'était vraiment important. La question, c'est est-ce que les femmes restent visiblement des femmes qui acceptent l'autorité masculine? Ça, c'est la question importante. Les cheveux marquent cette différence visible. Ensuite, deuxième chose, il est important de relever qu'il n'y a pas d'autre endroit dans le Nouveau Testament où une autre personne comme Jacques, Pierre ou Jean disent que les femmes portent le voile. En fait, on ne trouve nulle part un autre passage. Vraiment, tout est concentré et que dans ce passage pour l'église de Corinthe. Et si quelqu'un le disait ailleurs, mais la question ne se poserait même pas. Si c'est dit deux fois, voire trois fois, ben, c'est tout. On se courbe. Dieu a dit. Et là, eh bien, c'est que en ce qui concerne cette église de Corinthe, et Dieu est en train de régler un problème d'autorité dans cette église de Corinthe. Et il y avait un renversement de l'autorité. Et puis ensuite, une dernière chose, je crois que le signe est une chose et la réalité vécue en est une autre. On peut très bien avoir un voile et être complètement insoumise à son mari. Et ça se voit aujourd'hui. Hein. Et insoumise à son mari ou insoumise aux hommes hein, dans l'assemblée, indépendante. Hein. Et il ne faudrait pas croire que le voile réglerait un problème plus profond, un problème qui est dans le cœur en fait, hein, problème intérieur. Et ce que Dieu voulait à Corinthe, plus que tout, c'était que les femmes soient soumises. C'est ça. Et le voile n'était qu'un signe. Et puis qu'elles ne se sentent pas libres de faire ce qu'elles voulaient dans le culte. Le port du voile sans la réalité, ça ne sert à rien. Et je termine ici. C'est un sujet toujours brûlant. Hein, dans les églises, on en parle encore. Hein. Et je trouve ça assez intéressant que Paul clôture le sujet avec le verset 16. Puisqu'il dit, « Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. » Voilà. Je ferme la page. Et c'est tout. On ne va pas la réouvrir. Et je vous cite une citation que je trouvais intéressante. Charles Rochedieu dit, « L'homme spirituel, c'est lire la pensée de Dieu dans le livre de la nature. » Donc, il fait référence au voile naturel de la femme. « L'homme spirituel, c'est lire la pensée de Dieu dans le livre de la nature. Si donc quelqu'un veut contester, c'est qu'il est encore charnel. » Inutile de discuter avec lui. Voilà. Clac, ça se ferme. On clôture. On va avoir un moment de prière.